L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 14 juin et je suis bien entourée, vous allez l'entendre, puisqu'il y a Juliette qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Et puis aussi Claire qui est avec nous en studio aujourd'hui. Salut Claire.
Et oui, salut Marie, salut tout le monde, ça fait plaisir d'être ici.
Et pour nous aussi évidemment de t'entendre en dehors de la visio, même si on t'entend très bien, mais là c'est encore mieux,
c'est mieux
en studio. En studio pour aujourd'hui, donc cette émission du lundi 14 juin, on va parler Juliette d'un reportage que tu as fait d'ailleurs sur la réouverture des salles de sport.
C'est ça, exactement.
Tu es allée à l'Orange Bleu à Château-Gontier pour voir comment ça s'était passé, puisque les salles de sport donc, ont réouvert depuis mercredi dernier. Et puis on va parler aussi d'une tournée d'été, alors pas d'un artiste, non, mais de la Maison de l'Europe qui fait la tournée des marchés d'été pour vous informer justement sur la Commission européenne, mais aussi recueillir vos avis, si, vos avis, c'est mieux, pas vos avis, vous pouvez les garder, il n'y a pas de souci. Et puis pour l'interview, en tout cas, on va parler d'un jeu au concept assez innovant, vous allez l'entendre. L'idée, c'est que chaque action que vous faites dans le jeu, elle va se retrouver dans la vie réelle. Ça paraît incroyable et pourtant c'est bien le concept du jeu qui est développé par Clément Lebras, mais accompagné par Mayenne Laval-Mayenne Technopole. Et puis en fin d'émission, comme chaque lundi, on va retrouver le coup de cœur lecture de Emily Ranjou. Mais avant tout ça, comme d'habitude, on va faire un point sur l'actualité avec toi Juliette. Et on commence avec une grève au collège Emmanuel de Martonne.
Et oui, à l'appel de la section mayennaise du syndicat Force Ouvrière, une trentaine d'enseignants du collège Lavallois sont en grève ce lundi, en soutien à l'un de leurs collègues accusés par des élèves et leurs parents d'avoir tenu des propos sexistes en classe, notamment sur la tenue vestimentaire des collégiennes. Une altercation qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Le professeur mis en cause a porté plainte pour diffamation et le syndicat considère qu'il a fait l'objet d'un lynchage public.
Un incendie cette nuit dans le nord Mayenne.
À Larchamps, un cabanon de 80 mètres carrés qui abritait du bois de chauffage et de l'outillage a pris feu pendant la nuit. Au total, 17 pompiers ont été mobilisés de 1h à 3h du matin pour éteindre les flammes. 20 mètres carrés du cabanon ont été détruits. Le propriétaire en état de choc a été transporté à l'hôpital de Fougères.
Et puis si vous souhaitez donner votre sang, c'est le moment ce lundi.
L'établissement français du sang organise une grande collecte ce lundi 14 juin jusqu'à 15h30 au quartier Ferrier à Laval. À l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, l'EFS espère mobiliser 250 donneurs à Laval dans un contexte où les réserves sont particulièrement basses. Il est conseillé de réserver son créneau en ligne sur le site mon-rendez-vous-don-de-sang.efs.santé.fr.
Et puis tout autre sujet désormais, les premiers sondages sur les élections régionales en Pays de la Loire.
Christelle Morançais, la présidente sortante soutenue par les Républicains et l'UDI, arriverait en tête au premier tour avec 25% des suffrages, selon un sondage Ipsos pour France 3. En deuxième position, deux candidats seraient à égalité avec 19% des intentions de vote. Mathieu L'Orphelin, soutenu notamment par Europe Écologie Les Verts, et François de Rugy, le candidat de la majorité présidentielle. Le candidat du Rassemblement National, Hervé Juvin, arriverait troisième avec 17% des intentions de vote et le socialiste Guillaume Garot, quatrième, avec 14% des intentions de vote. L'issue du second tour reste cependant incertaine en fonction des alliances possibles entre les différents candidats.
Donc ça, ce sont les élections régionales et évidemment, il y aura aussi d'autres élections, les élections départementales. On fait le point d'ailleurs sur l'organisation à Laval.
Pour les élections du 20 et 27 juin, les 34 bureaux de vote lavallois seront ouverts de 8h à 18h. En raison de la crise sanitaire et de l'organisation d'un double scrutin, plusieurs bureaux de vote ont été déplacés. La liste actualisée est à retrouver prochainement sur le site de la ville de Laval. Les gestes barrières restent obligatoires, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l'entrée et distanciation physique seront au rendez-vous. Il est également demandé aux électeurs d'apporter leur propre stylo. Autre information importante, un minibus sera mis à disposition de 9h à 13h pour les personnes à mobilité réduite. Pour en bénéficier, vous pouvez appeler au 02 43 49 46 69.
Il sera bientôt possible, Juliette, de visiter l'ancien crédit foncier de Laval.
Et oui, des visites guidées sont prévues du 21 au 29 juin pour visiter le bâtiment qui accueillera bientôt le futur pôle culturel de Laval Aglo, notamment le conservatoire. Les visiteurs pourront en apprendre plus sur l'histoire du lieu et découvrir le chantier en cours. Trois visites sont proposées chaque jour à 16h30, 17h45 et 19h. Le nombre de participants par visite est limité à 15 personnes et pour réserver, il faut appeler l'office de tourisme de Laval au 02 43 49 45 26.
Et bien, l'échéance se rapproche de plus en plus, évidemment. Le Tour de France, ce sera le 30 juin. Mais avant, il y a une application pour découvrir, justement, la Grande Boucle, ici en Mayenne.
En partenariat avec le réseau Canopée 53, le département lance son application La Mayenne aime le Tour. Sous la forme d'un jeu de piste avec des énigmes, l'application permet de découvrir le patrimoine des 6 villes mayennaises traversées par la course cycliste et d'en savoir plus sur l'univers du Tour. L'application est déjà disponible gratuitement sur Google Play et l'App Store.
Et ça y est, on prend une bouteille d'eau et on enfile ses baskets, Juliette.
Et oui, après avoir été fermées depuis fin octobre, les salles de sport sont maintenant réouvertes depuis quelques jours. On écoute tout de suite Dylan, coach sportif à l'Orange Bleu de Château-Gontier. Il est soulagé de pouvoir à nouveau accueillir des clients et nous explique le protocole mis en place pour respecter les gestes barrières.
C'est la jauge du coup de 50% sans capacité, c'est mettre du gel hydroalcoolique à l'entrée, tenir une feuille avec le listing des gens qui sont passés, comme ça en cas de contact on peut revenir sur les gens. Ça va être condamner une douche sur deux pour respecter la distanciation. Les cours collectifs sont possibles. Ce qui se passe, c'est qu'on a justement un quadrillage au sol qui respecte les 4 mètres carrés par personne. Donc du coup, avec ce principe, on peut quand même accueillir 30 personnes comme notre salle est grande, donc ça se passe plutôt bien. Il faut réserver des créneaux horaires avec l'application en fait l'Orange Bleu directement. On réserve ces créneaux et on accède à la salle grâce à ça. Le 30 juin, plus de jauge. Donc on peut accueillir tous nos clients comme on veut et on retrouve notre amplitude horaire classique, à savoir 6h, 23h, y compris le week-end, samedi, dimanche et jours fériés. On a réouvert en juin, c'est une période déjà à la base assez calme. Donc ouais, on mise surtout sur septembre pour la reprise des gens. Ouais. Après, c'est toujours la peur qu'on ait un nouveau confinement un jour, quoi. Après, en espérant qu'avec la vaccination, ça puisse se faire correctement et qu'on ne reconnaisse pas ça un jour, quoi. Ça faisait 8 mois qu'on était fermés, donc ouais, ça fait du bien de réouvrir. On avait pas mal de monde ouais, sur ces premiers jours-là, pas mal d'inscriptions. Et on voit nos habitués, tout le monde attendait ça, je pense, avec impatience. On est soulagés de reprendre. On a renettoyé les machines et la salle qu'ils n'avaient besoin du coup avant la réouverture. Faire de la communication sur les réseaux sociaux aussi, c'était important pour prévenir les gens en amont. Il ne faut pas hésiter à venir justement, en plus notre salle est grande à Château-Gontier, donc on a vraiment de quoi mettre tout le monde sans problème. On respecte vraiment les distanciations, tout le monde a les masques. Il faut savoir aussi qu'il y a les masques en fait, pour se déplacer entre les machines. On peut l'enlever que quand on est sur la machine, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Non, tout est bien réglé.
Et une réouverture qui fait plaisir aux habitués comme Sébastien. Entre quelques mouvements de musculation, il confie être très heureux de pouvoir enfin revenir à la salle.
Ouais, pour tout, physiquement, moralement, ouais. J'y viens très régulièrement, au moins 5 fois par semaine, ouais. Pour l'hygiène, en fait, c'est vraiment, ouais, plus moralement. J'ai dit le fait de rester enfermé, voilà, dans la routine, en fait, c'est un échappatoire, en fait, le sport. Je fournis un travail ici que je peux pas faire à l'extérieur. Et puis à la maison, j'ai pas tout ce qui est adapté pour ça, au final.
Prochaine étape, le 30 juin, donc, à l'Orange Bleu, les horaires passent de 6h à 23h, y compris les week-ends. Et partout, dans toutes les salles, il n'y aura plus de jauge à respecter à partir de cette date.
Et oui, 30 juin, prochaine étape du déconfinement. Merci beaucoup, Juliette, pour ce reportage sur place, donc, à l'Orange Bleu, à Château-Gontier, pour la réouverture des salles de sport. Et puis, vous les avez peut-être déjà vus en allant faire vos courses. La Maison de l'Europe part faire la tournée des marchés. Depuis mercredi dernier, une équipe de la Maison de l'Europe installe un stand sur les marchés du département. Ce matin, ils étaient à Cran. Ce mercredi, ils seront à Goron. Ce jeudi, à Montsûrs. Et vendredi, à Mélay-du-Maine. 21 dates au total jusqu'au 24 juillet. Pour informer sur les missions de la Commission européenne et recueillir l'avis des citoyens. Une action inédite selon Judith Hager, chargée de projets européens à la Maison de l'Europe.
La Maison de l'Europe en Mayenne, elle est située à Laval. C'est vrai qu'on a un peu du mal parfois à faire en sorte de prodiguer cette information européenne partout sur le département. Et donc là, l'idée, c'était vraiment d'aller sur les territoires ruraux, dans un lieu convivial qui est le marché, pour pouvoir échanger de manière totalement ouverte et libre sur l'Union européenne, dans des territoires qui n'ont pas forcément accès à l'information européenne. Alors sur ce stand, il y aura plusieurs animations et possibilités. Donc tout d'abord, nous avons préparé une exposition sur les priorités de la Commission européenne actuelle, qui permettra d'en savoir plus sur les actions concrètes de la Commission européenne et quelle est la feuille de route, en quelque sorte, pour les prochaines années. On a mis en place un sondage qui permettra de recueillir les avis et les préoccupations également des citoyens sur différentes thématiques européennes. Et ensuite, ces avis seront analysés et transmis à la représentation en France de la Commission européenne afin de nourrir le débat sur le futur de l'Europe qui s'est notamment ouvert cette année et qui a pris une nouvelle ampleur avec la conférence sur l'avenir de l'Europe qui a été entamée le 9 mai. On a axé principalement sur les priorités de la Commission européenne, mais on a également une partie qui est plus libre, où les personnes peuvent vraiment écrire librement ce qu'elles ressentent sur l'Union européenne, sur n'importe quel sujet. Voilà, il n'y a pas vraiment de limite, même si nous, avec le sondage, on a quand même posé des questions un peu plus ou moins précises. Actuellement, les 6 priorités de la Commission européenne que l'on met en valeur, ce sont la transition écologique à travers le pacte vert, le numérique, le renforcement de la démocratie européenne. Et donc ça, c'est très important. C'est pour ça également qu'on fait ce genre d'action pour contribuer à la démocratie européenne. Ensuite, on a également la promotion des valeurs européennes. Qu'est-ce que sont les valeurs européennes et comment les promouvoir? L'Union européenne dans le monde, comment peut-elle agir en tant que quantité ensemble vis-à-vis des autres régions du monde? Voilà, et la dernière priorité, c'est l'économie. Comment faire en sorte qu'on ait une économie qui soit sociale, qui ne fasse pas ressortir des inégalités?
Le recueil des avis des citoyens se termine donc en septembre. Et en parallèle, une plateforme dédiée au partage de vos idées sur l'avenir de l'Europe est en ligne sur le site future.europa.eu. À découvrir justement ce jeu My Lovely Planet pour que vos actions que vous entreprenez dans le jeu soient ensuite traduites dans la réalité. Ça, ce sera dans 3 minutes juste après Feu Chatterton et la Malinche.
Madame, je jalouse le vent qui vous caresse prestement la joue. Des provinces andalouses et panaméricaines, ce vent suave et si doux. Madame, je jalouse. Madame, je jalouse le vent qui vous caresse la joue en ces provinces andalouses. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Quand je reste à Paname. Missive la vois-je, je crains de vous causer l'ennui, et cette attente comme un missile endolorit ma tête, vois-je, vois-je, endolorit ma tête, vois-je, vois-je, que deux fois passe le jour et vienne la nuit, passe le jour et vienne la nuit. Me reviennent toi sur l'autre rive, et tu avec un autre. Les choses nous échappent, pourquoi les retenir par le bout de l'écharpe? Si vite devenir étrange, étrange l'un à l'autre. Au cou, le souvenir étrange, et je reste à Paname. Tu sais de mémoire ancienne te méfier les braves de leur soif inopportune. Combien de lâches sont venus ici courir chimère à coups de fusil. Ivres de gloire ont-ils pensé que ton cœur serait conquis, percé de flèches et de rancœur, comme tes côtes mexicaines de Malinche, de Malinche. Il n'y en aura qu'une. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui.
C'était Feu Chatterton avec la Malinche dans l'agité du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. Et on vous fait une belle proposition ce midi, Vous pouvez jouer sur votre smartphone et en même temps aider à replanter des arbres ou nettoyer les océans. Et oui, c'est possible avec le jeu My Lovely Planet, créé et développé par Clément Lebras. Il est accompagné dans ce projet par Laval Mayenne Technopole. Le principe, dans le jeu, vous développez un jardin zen et chaque fois que vous plantez un arbre par exemple, un arbre est replanté en vrai par une association partenaire. Et plus d'explications avec Clément Lebras qui revient sur la naissance de ce projet.
C'est une idée qui est née il y a quelques mois, en septembre-octobre 2020. Et en fait, l'idée, c'est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les jeux mobiles génèrent énormément de revenus. On a, enfin, c'est, pour vous donner quelques chiffres, c'est 2,5 milliards de joueurs dans le monde, 80 milliards de dollars de revenus en 2020, 80 milliards. Quand on regarde le temps cumulé de jeux de tous les joueurs, en 2020, on arrive à peu près 5 millions de temps de jeux cumulés, donc 5 millions d'années. Donc en fait, c'est vraiment énorme. Donc si vous voulez, on est vraiment, l'idée, c'est de mettre à profit un peu tout cet argent et cette énergie pour des causes utiles et notamment les défis environnementaux.
Donc c'est vrai que là, l'idée, elle paraît belle, mais après, comment on met ça concrètement en place ?
Bah concrètement, c'est assez simple. L'idée, c'est de créer un jeu mobile dans lequel tout ce que vous faites a un impact positif dans le monde réel. Donc, par exemple, quand vous plantez des arbres en jeu, nous, on va planter des arbres dans le monde réel. Quand vous allez nettoyer des déchets dans le jeu, ça va nettoyer des déchets. Et concrètement, en fait, vous allez sur le My Lovely Planet, vous allez développer un peu votre une petite île. Donc, vous allez prendre soin de cette île. C'est là où vous allez planter des arbres. C'est là où vous allez prendre soin, par exemple, de vos abeilles, enfin, ce genre de choses. Un peu comme Animal Crossing pour ceux qui connaissent. Et après, nous, ce qui se passe, c'est qu'en fait, donc, c'est un jeu qui est gratuit sur mobile uniquement. Et dans le jeu, vous pouvez gagner des bonus en faisant des achats ou alors vous pouvez aussi regarder des publicités. Et donc ça génère de l'argent et nous, on reverse une partie de ces revenus à des associations qui agissent concrètement sur le terrain. Et on reverse de l'argent en fonction des actions que vous faites. Donc, par exemple, si vous plantez un arbre, nous, on va reverser de l'argent à des projets de reforestation.
Donc ça veut dire, j'imagine, que vous êtes déjà en partenariat avec plusieurs associations qui œuvrent justement dans les domaines que vous avez évoqués ?
Tout à fait. On a déjà des partenariats. On est en partenariat avec Eden Project, qui est une ONG de reforestation à l'international, donc qui a déjà fait énormément de reforestation, hein, qui a plus de 100 millions d'arbres replantés, qui a protégé énormément de zones, de forêts primaires notamment. La SPA aussi, on travaille avec la SPA des repas d'animaux en refuge. On est en train de regarder pour aussi travailler avec des associations pour la protection des abeilles. On va travailler avec la Plastic Bank pour les nettoyages des déchets. Et on travaille aussi avec Sea Shepherd sur un programme de protection d'espèces marines de tortues à Mayotte qui sont en danger, qui souffrent de braconnage. Donc voilà, on travaille déjà avec ces différentes associations.
Et alors, c'est vrai que ça paraît presque trop beau pour moi de l'extérieur qui ne sait pas exactement comment ça fonctionne. C'est-à-dire, par exemple, même en visualisant plusieurs pubs, donc après, l'argent, j'imagine qu'il n'est pas directement reversé à l'association, il faut bien que le jeu se développe aussi et que vous vous rémunériez. Comment ça se passe ?
Alors nous, en fait, notre modèle économique, il est très simple. Donc, il y a une partie qui va partir pour le store ou pour le store donc à Google ou à Apple. Donc ça, c'est à peu près 30%. Et ensuite, nous, on a un chiffre d'affaires. Et sur ce chiffre d'affaires, on va reverser en fait 15% pour 15% du revenu pour l'association. Donc nous, on se finance avec les 85% restants.
Et donc, en tout cas, là, depuis le début du développement du jeu, vous sentez, en tout cas, forcément qu'auprès des associations et même au niveau de vos partenaires publicitaires, que ça prend, en tout cas, que c'est un modèle qui peut se développer ?
Alors, complètement. Enfin, surtout, ce qui est très important, nous, c'est au-delà des partenaires, c'est de voir l'appétence des joueurs et des gens qui vont jouer. Et ça, c'est très important. Et on a fait une campagne de crowdfunding et donc on a commencé de communiquer. Et là, on voit un engouement très, 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 très fort. Pour le jeu, les gens ont envie de jouer au jeu. Enfin voilà, nous envoient plein de messages. Enfin, on a fait des vidéos notamment sur différents réseaux sociaux. On a plus de 250 000 vues en cumulé sur les différents réseaux. Enfin, on a eu des milliers de commentaires de gens qui étaient intéressés. Donc ça, c'est très très encourageant.
Puisque aujourd'hui, si on peut jouer et allier vraiment la cause environnementale et en tout cas que ça serve entre guillemets, se sentir utile, ça aussi, ça joue là-dessus et ça fonctionne bien.
Complètement, complètement. Ça, c'est je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients des enjeux environnementaux auxquels on fait face et justement développer des moyens simples, des moyens qui sont aussi où on peut s'amuser, qui sont fun et qui sont en plus efficaces pour pouvoir agir. Ça c'est je pense quelque chose qui est très attendu à mon avis de beaucoup de gens. Donc le jeu est un de ces moyens et qui à mon avis permettra d'avoir un impact vraiment vraiment significatif.
Comment est-ce qu'on est tenu au courant, en tout cas, de notre implication quand on joue ?
Oui, très bonne question. En fait, vous allez être tout à fait tenu au courant. Hein. En gros, quand déjà vous allez savoir votre impact personnel, donc combien d'arbres vous avez financé, contribué à planter, combien ensuite il y aura l'impact aussi de la communauté My Lovely Planet. Et après, nous, l'idée, c'est aussi de créer des contenus pour tenir au courant des différents projets, où est-ce que les arbres sont plantés, quels sont les refuges, par exemple, pour les animaux qui sont financés. Enfin, voilà. Ça, c'est quelque chose aussi de très important.
Et alors, est-ce que c'est... Là, du coup, j'imagine que ça y est, le jeu, il est prêt à jouer. Est-ce que c'est la première version sur laquelle vous avez travaillé ou au début, vous étiez parti sur un tout autre projet ?
Alors, le jeu, là, on est en train de développer la version bêta. On a développé une version alpha, mais qui n'est pas publique. On est en train de travailler sur la version bêta, là, qui va sortir fin juin. D'abord en version privée, puis ensuite en version test un peu plus élargie. En fait, le jeu, oui, c'est la première. Enfin, c'est le premier jeu sur lequel on est parti. Après, par contre, cette idée-là, avant, enfin, moi, ça fait plusieurs années que je réfléchis à ce projet. Donc, il y a eu un temps de maturation pour arriver à ce projet-là.
Est-ce que vous disiez donc que c'est un projet auquel vous réfléchissez depuis longtemps ? Pourquoi c'était important pour vous, en tout cas, et comment vous est venue cette idée ?
Il y a 6 ans, j'ai cofondé le moteur de recherche Lilo, donc qui est un moteur de recherche solidaire qui finance des associations. Donc c'est un peu dans le même domaine. Donc si vous voulez cette expérience-là, j'ai vu que, enfin moi j'ai une conviction, c'est que le numérique peut être un outil vraiment puissant pour justement résoudre ou en tout cas apporter des solutions par rapport aux problématiques environnementales et sociétales auxquelles on fait face. Parce que notamment aujourd'hui, ces problématiques, elles sont globales, elles sont mondiales, et que le numérique, ça permet très vite de toucher, de créer des communautés internationales, en fait. Et ça, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Et je pense que c'est ce genre de choses dont on aurait besoin. Et après, comment ça m'est venu, cette idée, c'est en regardant un peu, effectivement, en réfléchissant à des différents moyens. Parce que Lilo, c'est un moteur de recherche. En fait, j'avais commencé à réfléchir à d'autres types de moyens pour aider les gens à agir au niveau numérique dans leur quotidien. Et le jeu en faisait partie, quoi. Aujourd'hui, on est 4 à travailler sur le projet. Je suis le seul fondateur, mais par contre, on est 4 à travailler sur le projet.
Avec un accompagnement, je crois, de Laval Mayenne Technopole.
Exactement, exactement. On est incubé à Laval Mayenne Technopole. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment... quelque chose qui nous apporte énormément puisque il y a un vrai réseau aussi au niveau Laval aujourd'hui est quand même un centre de ressources et de notamment pour les ressources humaines qui est très important puisqu'il y a beaucoup d'écoles qui travaillent sur la 3D dans le jeu vidéo, donc c'est quelque chose de très très positif pour nous.
Justement, oui, cet accompagnement, il se fait à quel niveau dans le développement du jeu?
L'accompagnement de la Technopole, nous, ça nous aide par rapport à plusieurs choses. C'est déjà sur les demandes de subventions, sur l'accompagnement par rapport à ça, à l'écosystème aussi de subventions au niveau de la Mayenne. Et après, ça nous aide aussi sur les RH qu'on veut diffuser, par exemple, des offres de stage ou d'emploi. Ça nous aide beaucoup.
Au niveau du calendrier du projet, donc là, il va y avoir cette version bêta fin juin, c'est ça ?
Exactement. Version bêta fin juin et un lancement à l'automne.
Et est-ce qu'on peut encore participer à la cagnotte sur KissKissBankBank ou c'est trop
tard ? On peut tout à fait participer puisqu'il reste encore une quinzaine de jours. Donc, il est encore possible de participer. C'est sur KissKissBankBank et faut juste rechercher My Lovely Planet. Nous, ça nous aide énormément quand vous participez, même à partir de 5 euros. Donc, si vous pouvez le faire, c'est vraiment top. Ça nous aide parce que déjà, évidemment, ça va nous aider à finaliser la version bêta. La cagnotte va vraiment nous aider à finaliser la version bêta, rajouter des fonctionnalités qui seront importantes. Donc ça c'est quelque chose de très très important. Et puis ça nous aide aussi parce que ça montre que il y a aussi des gens qui attendent le jeu et en plus vous aurez accès à la version bêta pour faire des tests. Enfin voilà, il y a pas mal de choses auxquelles vous pourrez avoir accès en participant. Donc n'hésitez pas à nous aider.
Alors l'objectif, oui, c'est ce que je voyais en lisant justement la page de crowdfunding, créer une communauté de 100 millions de personnes, c'est ça ?
Exactement, en fait au-delà du jeu, l'idée c'est vraiment de créer une grande communauté engagée pour l'environnement à travers le jeu mobile. Et donc si vous voulez, il y a plein de possibilités après par rapport à ça. C'est, je pense qu'une des problématiques qu'on a quand sur les problématiques environnementales, c'est de fédérer les gens. Et je pense que le jeu peut être un vrai moyen de fédérer justement les gens par rapport à ça. Et puis, vous imaginez demain, je ne sais pas s'il y a des problématiques, comme les incendies qu'il y a eu ou ce genre de choses, nous, on pourrait voilà, mobiliser en quelques jours des dizaines, voire des centaines de millions de personnes. Alors, 100 millions de joueurs, c'est un très gros objectif, mais c'est quelque chose qui est faisable parce qu'aujourd'hui, il y a des jeux, il y a quand même plusieurs dizaines de jeux qui arrivent à avoir ce nombre de joueurs, donc c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Voilà, quand on le voit, on se dit que c'est énorme, mais en fait, à l'international, dites-vous qu'il y a... Enfin, c'est pour redire un peu les chiffres que j'avais donnés au début, mais il y a 2,5 milliards de joueurs dans le monde. Donc, voilà, 100 millions, c'est énorme, hein, mais aujourd'hui, le jeu mobile, il y a... Enfin, on est très vite à l'international, il y a énormément de jeux, il y a beaucoup de jeux qui arrivent à part 10 millions, 15 millions, 50 millions... 100 millions de téléchargements, donc c'est quelque chose qui est faisable. Puis c'est pas quelque chose c'est pas un objectif qu'on se fixe pour l'année prochaine. Ça va se faire au fur et à mesure.
Est-ce qu'il y a d'autres associations qui à terme pourront être aussi associées à ce projet ?
Bien sûr. Alors nous, moi avec Lulo, j'ai travaillé avec plusieurs centaines d'associations, donc j'en connais pas mal. Et l'idée c'est de rajouter au fur et à mesure des impacts. En fait, on travaille plus en termes d'impact que d'associations, c'est-à-dire que on peut, par exemple sur la forestation, on peut avoir plusieurs associations qui peuvent travailler dessus. Donc l'idée c'est de rajouter des impacts au fur et à mesure. Donc il y a par exemple la protection des baleines, la protection des insectes. Ça peut être la protection de forêts, le rachat, aider des associations ou des populations locales à racheter des terres pour protéger les forêts. Il y a énormément de choses possibles.
Le financement participatif, si vous voulez aider ce projet, le financement participatif donc est toujours accessible sur kisskissbankbank.fr. Il suffit de chercher My Lovely Planet, c'est le nom du jeu. On revient d'ici quelques minutes, le temps d'écouter Good Morning Bright Eyes de Hills. plus vraiment le moment de se lever, mais on peut quand même écouter Good Morning Bright Eyes de Hills dans l'agité du local sur l'autre radio. Et puis, ça y est, il fait du soleil évidemment depuis quelques jours. C'est le moment de prendre une chaise longue au soleil ou à l'ombre, hein, selon vos préférences et selon le thermomètre, et surtout de dévorer le dernier livre coup de cœur sélectionné par Christophe de Emily Ranjou.
Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour l'autre radio, bonjour à tous les auditeurs. C'est pas souvent qu'on parle de livres de poche, mais parce qu'il vient de sortir aux éditions Folio, j'ai envie de vous présenter et de vous emmener en Sibérie avec le livre de Johann Barbereau dans les geôles de Sibérie. Ce livre n'est pas un roman, c'est un récit et tout est vrai. Voilà, c'est déjà partez du principe que ce que Johann Barbereau va vivre, c'est la vérité. Bien sûr, c'est sa vérité, mais en tout cas, il va nous raconter comment il y a quelques années, il est allé en Sibérie, à Irkoutsk, pour devenir le nouveau directeur de l'Alliance française en Russie, une alliance qui promeut la langue française partout dans le monde. Et Johann Barbereau, qui est un passionné de la culture russe, de la littérature, de la langue, enfin voilà, c'est un amoureux, c'est un russophile, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime la Russie. Il va être embauché et il va ici partir avec sa femme et son enfant et vivre à Irkoutsk pour essayer de redynamiser la langue française dans cette ville. Et il va y arriver. En l'espace de 2 années, eh bien, il va rencontrer de très beaux succès, il va apporter un souffle culturel nouveau à la ville et tout le monde en sera plus ou moins content, puisque un matin, à 5 heures du matin, eh bien, Johann Barbereau va voir débarquer chez lui des hommes cagoulés qui vont le menotter et qui vont l'emmener au commissariat le plus proche. Et là, bien évidemment, c'est l'étonnement, c'est la sidération, puisque il va être accusé de quelque chose d'horrible dont je ne vais pas vous parler, parce que c'est ça aussi la surprise du livre. Il va être accusé de quelque chose d'abominable, bien évidemment, qu'il n'a pas commis. Sauf que voilà Johann Barbereau qui commence à mettre le doigt dans un engrenage infernal, celui de la suspicion, mais celui aussi de l'enfermement, de la prison et de la privation de tout droit. Parce qu'il faut savoir qu'en Russie, aujourd'hui, il ne faut pas trop avoir de problèmes et il ne faut pas trop déranger l'État, les politiques, les dirigeants. Et Johann Barbereau était peut-être un de ceux-là. En tout cas, ce livre va nous raconter cette histoire incroyable qui tient autant du fait divers que du roman policier, que du roman d'aventure, puisque Johann Barbereau va devoir faire confiance en lui, en ses forces, en son courage, pour se sortir de ce traquenard infernal. Ça s'appelle « Dans les geôles de Sibérie » de Johann Barbereau, en édition de poche chez Folio.
Retrouvez M. Lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, et sur l'autre radio.
Sur l'autre radio, dès demain matin à 7h30, une nouvelle chronique. Et si vous n'êtes pas encore réveillé ou que vous ne pouvez pas l'écouter, évidemment, le tout est en podcast sur l'autreradio.fr. C'est l'heure de la rubrique Initiative avec toi Claire, et aujourd'hui, lundi, c'est une spéciale emploi.
On commence avec Qualipac Aluminium, le fabricant d'emballages et de bouchons, de parfumerie de luxe, de Saint-Saturnin, du Limay, recherche 10 profils pour des CDI allant du technicien qualité, maintenance à des postes de cadre comme ingénieur chimiste. Il recherche aussi 20 intérimaires et plusieurs alternants dans l'outillage. N'hésitez pas à les contacter au 02 43 06 78 26 et l'entreprise Flash Colis à Laval recrute 15 postes en CDI pour des postes chauffeur-livreur. Les salaires peuvent aller jusqu'à 1700 euros avec prime. Les débutants sont acceptés. Vous pouvez les appeler au 02 72 89 11 51.
Et dernière offre d'emploi, mais cette fois-ci pour les jeunes.
L'Agence régionale de santé a lancé une plateforme déjà depuis l'été dernier, une plateforme dédiée aux étudiants et plus particulièrement pour les jobs d'été du secteur de la santé. La plateforme se nomme Josette pour Job Santé l'été et a proposé l'été dernier plus de 900 offres d'emploi. Elle est ouverte pour les offres en EHPAD, services infirmiers à domicile, aux structures sanitaires, pour les prises en charge de personnes en situation de handicap et enfin pour l'accompagnement à domicile. Ce sont des postes accessibles à tous les étudiants et pour toutes les filières. Rendez-vous sur le site ARS PDL pour Pays de la Loire et tapez Josette.
Eh bien, on a tout noté. Merci beaucoup, Claire. Et si vous avez d'autres initiatives à nous partager, laissez-nous un message vocal sur notre répondeur au 09 70 40 59 40. Et n'hésitez pas à nous suivre là aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et donc notre nouveau compte Instagram. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce lundi. Merci Juliette et merci Claire d'avoir été avec nous. On vous retrouve demain.
Et oui, merci Marie, merci tout
le monde.
À demain.
Avec plaisir, demain évidemment à 12h15 comme d'habitude. Mais évidemment, les émissions se poursuivent sur l'autre radio. À 19h, il y aura Solénoïde, suivi à 20h de la discothèque d'Adélie. Et oui, nous, on se retrouve demain à 12h15 et je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.